Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi,
nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pie X,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons terminer aujourd'hui, je pense, le traité sur la prudence. Je rappelle que la prudence est la reine des vertus cardinales, qui va nous aider à utiliser correctement finalement tous les dons du bon Dieu. Je vais éteindre mon téléphone pour ne pas oublier. Alors, il n'y a pas grand-chose sur le polycopier. Je vais continuer de vous expliquer rapidement donc l'enseignement de saint Thomas à partir des dernières questions qu'on n'a pas encore faites. Alors, nous en sommes à la question 54. Donc, saint Thomas d'Aquin, pour terminer le traité sur la prudence, va analyser les différents péchés contre la prudence. On a vu déjà le don de conseil, donc qui travaille avec la prudence, qui éclaire la prudence. Et maintenant, il va voir les vices opposés à la prudence. On a déjà vu la dernière fois l'imprudence, et maintenant on en est à la page 54. À la question 54, sur la négligence. On pense souvent que la négligence est un peu une babiole, quoi, une chose pas très importante. Et quand la négligence nous amène à pécher contre notre devoir d'État, ça peut amener des conséquences lourdes et parfois même des fautes graves. Alors qu'est-ce que c'est que la négligence ? On pourrait le définir comme ça, c'est le manque de la vigilance due. Le manque de la vigilance due, c'est-à-dire le manque de la vigilance que l'on doit avoir dans un cas particulier en fonction de notre devoir d'État. Il peut y avoir par exemple la vigilance, d'un père de famille sur ses enfants, la vigilance d'un prêtre sur sa paroisse, sur les âmes de ses paroissiens. S'il manque par négligence à cette vigilance, il peut pécher gravement, parce qu'il peut laisser le démon évidemment entrer dans la maison et flanquer la pagaille partout et détruire les âmes. Donc, c'est la définition que donne saint Thomas d'Aquin, question 54, article 1 de la Secunda Secundae. Être négligent, c'est manquer de la vigilance que l'on doit avoir. Donc la négligence est réellement un péché. Donc, on va voir si elle est péché mortel, le péché venir. En fait, ça va dépendre beaucoup des circonstances et du devoir d'État qui est le nôtre. Donc ici, une petite note du Père Le Breton. La négligence a proprement pour matière le bien qu'on est tenu d'accomplir. Soit que l'on omette entièrement par défaut de soin un acte d'obligation, soit que l'on omette quelques circonstances nécessaires à cet acte. C'est-à-dire qu'on peut négliger une chose qu'on doit faire et négliger aussi de protéger un bien existant. Dans les deux cas, il y a une négligence. Alors, la négligence est-elle opposée à la prudence ? Je vais assez rapidement, c'est des questions faciles. La négligence est-elle opposée à la prudence ? Question 54, article 2. Eh bien, saint Thomas répond évidemment que la négligence, donc le manquement à la vigilance due, est d'une manière directe opposée à la sollicitude ou à la vigilance, qui fait partie de la prudence, et donc opposée à la prudence elle-même. Puisque c'est un manquement à la vigilance étant une partie de la vertu de prudence, donc si je manque à la vigilance, je manque à la vertu de prudence, c'est tout simple. Troisième article de la question 54, la négligence peut-elle être un péché mortel ? La négligence peut être un péché mortel quand cette chose est de nécessité de salut. C'est-à-dire, tout dépend de la matière. Rappelez-vous, pour qu'il y ait péché mortel, trois conditions, il faut matière grave, il faut pleine connaissance et plein consentement. Donc s'il y a une matière grave, c'est-à-dire négligence sur des choses importantes, eh bien, il peut y avoir matière grave, et donc il peut y avoir, s'il y a connaissance et consentement, il y a faute grave. Encore une fois, il faut toujours revenir avant de juger si une faute est mortelle ou non, il faut toujours revenir à la définition aux trois conditions du péché mortel. Donc, matière grave, pleine connaissance, plein consentement. S'il n'y a que la matière grave, mais qu'il n'y a pas la connaissance et le consentement, il n'y a pas faute grave. Mais il est évident que, même sur des choses purement matérielles, et puis il y a des négligences matérielles qui sont des fautes graves. Imaginez quelqu'un qui sait qu'il doit faire une réparation importante sur sa voiture parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, moi, un problème grave au niveau de la direction de la voiture, il sait qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la voiture, qui continue de rouler malgré ça, et qui provoque un gros accident, qui tue quelqu'un, par exemple, ou qui se tue lui-même, ou qui se blesse lui-même très profondément, ou blesse le prochain, pardon, mais il est évident, dans un cas comme ça, il y a négligence en matière grave, il y a faute grave. Il y a faute grave quand la négligence s'oppose à une vigilance qui est deux préceptes dans le cas qui est le mien. Il est évident que des parents qui sont en charge d'enfants, ben ces parents qui sont en charge de parents d'enfants pardon ont un devoir de vigilance par rapport à leurs enfants. Et très souvent, les parents négligent complètement leur devoir d'État. Et si vos enfants vivent par votre faute, je dis bien par votre faute, en état de péché mortel, ben est évident qu'il y a une responsabilité des parents. Mais souvent, les parents se rendent absolument pas compte des choses. Moi, je me rappelle un cas très particulier, une histoire qui m'est arrivée une fois. J'étais dans une famille que je connaissais mal, quelque part en France, et donc j'étais invité à un repas le soir dans cette famille, et la famille donc sur l'apéritif, on commence à manger, et la famille m'avait parlé avant le repas donc des enfants de la famille. Il y avait entre autres deux jeunes filles qui étaient des jeunes adultes, 20 et 22 ans, que je ne connaissais pas, je ne les avais jamais vues. Et les parents me disaient, dans la tradition, les parents de traditionalisme, ils disaient que c'était d'excellentes filles. Bon, c'est très bien, de vos gracias, ce sont d'excellentes filles. Et puis, on avait déjà commencé à manger, voilà deux jeunes filles qui débarquent de l'étage, habillées littéralement comme des prostituées, pas d'autre mot. Hein. Et elles passent, elles disent à peine bonjour. Et bonsoir, bonne soirée. Hein. On rentre tard dans la nuit. Et puis elles partent. Et les parents me disent, ce sont les deux jeunes filles. Et ils étaient convaincus que c'était des bonnes filles. Je ne dis pas, je veux pas faire un jugement téméraire sur l'état intérieur des âmes de ces deux personnes. Mais quand on voyait la tenue extérieure de ces personnes, on pouvait vraiment se poser des questions. En plus de ça, c'est des jeunes filles qui allaient passer toute la soirée en boîte de nuit. Les parents se préoccupaient absolument pas de l'état de grâce de leurs enfants, et sous prétexte qu'il fallait faire confiance, c'était des bonnes filles. Attention, là il y a un manque à la vigilance grave de la part des parents. Il ne faut pas se dire que nos enfants sont maintenant des jeunes adultes et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Pas ce qu'on veut dans la vie. La liberté, c'est pas le droit de faire ce qu'on veut, c'est le droit de la possibilité qu'on a de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin dont on a la charge. Et tant que vos enfants sont sous votre toit, vous en êtes responsable. Bon, il est évident qu'on va pas parler à un enfant, un adulte de 25 ans, comme on parle à un gamin de 5 ans, mais il y a quand même un devoir de vigilance. Donc ce péché de négligence, c'est un péché extrêmement grave. Très rapidement, il y a aussi des péchés très graves en matière de négligence sur le plan spirituel. Imaginez quelqu'un qui sait, par exemple, qu'il est en train de perdre la foi parce qu'il ne se confesse plus, parce qu'il n'étudie plus son catéchisme, et qui sait que son catéchisme est en train de se volatiliser parce qu'il n'étudie plus, et qui continue comme ça. Qui sait, par exemple, que ses enfants ne se confessent plus depuis un certain temps, qui sait que ses enfants ne communient plus depuis un certain temps, que ses enfants n'étudient plus du tout leur catéchisme, et qui laisse ces choses se faire et se pourrir comme ça. Eh bien, il y a un manquement, une vigilance due. Et un manquement, une vigilance due, c'est une négligence en matière grave, parce que les enfants peuvent vivre en état de péché mortel, sera en partie la faute des parents. Et pour le cas que j'explique, là, un père de famille qui sait qu'il est en train de faire la foi, de perdre la foi, n'étudie pas son catéchisme, eh bien, il y a faute grave, parce qu'il y a le devoir grave, sous peine de péché grave, d'étudier son catéchisme pour connaître la foi. De la même façon, si vous voulez, même sur d'autres plans, on peut donner des tas d'exemples de cette négligence. Par exemple, un médecin qui se maintient pas à l'eau, qui se maintient pas la tête hors de l'eau en étudiant les nouveaux procédés chirurgicaux, médicaux, les nouveaux médicaments qui sortent, etc. Et qui se contente de garder ce qu'il a appris à l'université de médecine, eh bien, il pêche par négligence parce qu'il risque de laisser passer certaines choses qui peuvent provoquer des catastrophes sur le plan physique dans le corps des personnes dont il a la charge. Voyez. Et je pense que si on essaie d'analyser les raisons de la catastrophe de Vatican II, une des sources de cette catastrophe, une des raisons de cette catastrophe, c'est la négligence des fidèles et la négligence des pères, des prêtres évidemment, mais aussi la négligence des fidèles qui sont bien doutés qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et qui au lieu d'étudier pour arriver à contrecarrer ces manquements, ont laissé les choses filer, ont laissé voguer l'eau, et puis ils ont tout perdu. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu complètement et leur âme et l'âme de leurs enfants, c'était trop tard. Vous voyez ? Donc, rappelez ce que dit ici saint Thomas d'Aquin, la négligence peut être un péché mortel quand cette chose est de nécessité de salut. Donc, c'est par rapport du côté de ce qu'on a nommé. Donc, si l'on nommait une chose qui est importante, la négligence est grave. Si l'on nommait quelque chose qui n'est pas important, la négligence n'est pas grave. Donc, il n'y a pas faute grave. Deuxièmement, au niveau de la cause, dès que la volonté est si faible et si languissante qu'elle manque totalement de charité, eh bien, il peut y avoir aussi, là encore, des fois, des fautes graves de négligence. Imaginez quelqu'un qui est malade, une maladie qui commence à se développer, ou une faiblesse qui commence à se développer, et qui ne cherche pas à prendre, ne prend pas, par exemple, les médicaments qu'on lui a donné, médicaments qui auraient coupé la maladie, qui auraient vraiment amélioré les choses en supprimant la cause infectieuse. Et supposons une personne qui, par paresse, par négligence, ne s'occupe pas de prendre ses médicaments. Eh bien, il va dépérir, il va peut-être mourir. C'est littéralement du domaine du suicide, une chose comme ça. Voyez. Donc, des négligences dans ce domaine-là sont graves. Lorsque la négligence consiste... Saint Thomas, vous voyez bien, fait les distinctions qui s'imposent. Évidemment, lorsque la négligence consiste dans l'omission d'un acte non nécessaire au salut, qu'elle constitue seulement un défaut de ferveur, qui n'atteint pas la charité divine, il est évident qu'elle ne dépasse pas le péché véniel. Donc il faut voir quelles sont les conséquences, c'est comme ça qu'on juge, quelles sont les conséquences de ma négligence, pour moi et pour les autres. Quelles sont les conséquences de ma négligence pour ceux dont j'ai la charge, attention. On ne va pas vous demander des comptes sur des pas vous poser des questions sur du jugement sur des gens qui dont vous n'avez pas la charge. Mais il est évident que si on laisse le démon rentrer dans la paroisse et que le prêtre ne fait rien pour empêcher le démon de rentrer dans la paroisse et prendre possession des âmes, et bien il est responsable des catastrophes qui s'imposent. Hein. Saint Curé d'Ars, il disait laisser une paroisse sans prêtre pendant 40 ans, et on y adorera les bêtes. Il est évident que si un prêtre qui a charge d'âme se rend compte que le modernisme rentre dans sa paroisse, que le laisser-aller se crée dans la paroisse et qu'il ne fait rien, il est responsable. On voit bien, actuellement, tout le monde en est témoin, les tas de gens en sont témoins, moi j'ai reçu des témoignages de tous les côtés. Le laisser-aller, par exemple, actuel, sur le plan doctrinal de la Fraternité Saint-Pédis, par exemple, qui accepte maintenant d'essayer d'être reconnu par Rome sans accord dogmatique, contrairement à ce qu'avait demandé Monseigneur Lefebvre, eh bien, ça entraîne une négligence sur le plan spirituel. Hein. On voit très bien les catastrophes, par exemple, au niveau, entre autres, des tenues, les tenues vestimentaires à la chapelle. Vous allez me dire, mais c'est pas très important. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est extrêmement important. Quand les gens me disent, ça c'est une objection qu'on entend très souvent, quand les gens me disent, monsieur l'abbé, la tenue vestimentaire pour les femmes, vous êtes un peu obsédé, c'est pas si grave que ça. Et je leur dis, un prêtre en soutane, c'est important ou non? Un prêtre qui enlève sa soutane, qui se promène sans sa soutane, qui fait son apostolat sans sa soutane, est-ce que c'est grave? Est-ce que la soutane est quelque chose d'important pour le prêtre? Ah oui, c'est important. Eh bien, la soutane est au prêtre, ce que la robe est à la femme. Et donc, de même qu'un prêtre qui commence systématiquement à enlever sa soutane pour n'importe quoi, eh bien, bon, il y a des cas, si un prêtre fait, je sais pas moi, du sport ou des trucs, il va nettoyer son toit, et puis, dans certaines conditions de travaux impossibles, bon, il peut enlever sa soutane de façon exceptionnelle. Mais la soutane, c'est un drapeau. C'est un drapeau qui représente quelque chose. Le drapeau, ça représente le pays, la soutane, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'ont fait les évêques autour des années 60, avec la, juste avant Vatican, ou après Vatican II, 62-65, c'était l'abandon de la soutane, l'abandon de la santale, ça a entraîné l'abandon de la foi, parce que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aide le moine à agir comme moine. Vous voyez? Et c'est très important, pas simplement pour les prêtres, cet exemple de soutane est très important pour les prêtres, mais c'est aussi très important au niveau des fidèles, que les fidèles réagissent à cette espèce de nudisme qu'on voit à peu près partout maintenant, sans que les gens réagissent. Vous voyez? Quand je vois par exemple des fidèles de la tradition, bon, heureusement, dans ces deux vacanties, j'espère qu'il n'y en a pas, mais dans la fraternité Saint-Félix, ça courait partout, des fidèles de tradition qui allaient à la messe traditionnelle tous les dimanches et qui allaient tranquillement passer leurs vacances sur les plages de la Costa Brava en Espagne ou la Côte d'Azur à Nice, ça laissait rêveur. Vous voyez, comment voulez-vous que des pères de famille qui ont des jeunes enfants de 14-15 ans, comment voulez-vous que les enfants restent en état de grâce? Sauf s'ils sont aveugles, à part un cas de cécité qui excuserait du péché, mais il y a une cécité volontaire, c'est-à-dire on est aveugle volontaire, et c'est ça cette négligence. C'est cette négligence qui explique en grande partie la catastrophe de la foi en France. Il ne faut pas croire que la foi catholique en France a disparu comme ça en 5 minutes toute seule, par un coup de baguette magique. Elle s'est affaiblie, puis elle a fini par disparaître complètement, parce qu'il y a eu de la négligence de ceux qui étaient en charge. Il ne faut pas simplement voir les prêtres, ceux qui sont en charge, et aussi les parents. Il ne faut pas croire que les pères de famille et les mères de famille ont le droit de dire « Ah ben c'est le rôle des prêtres, c'est le fait que les prêtres qui n'ont pas fait leur boulot. » Et vous avez fait votre boulot, ce que je dis souvent aux parents. « Et vous, madame, vous avez fait votre travail. Vous, monsieur, vous avez fait votre travail pour aider vos enfants à rester en état de grâce. Vos enfants ont tous perdu la foi. Qu'est-ce qui est responsable ?»« Ah, c'est le curé. » Certes, les curés ont une responsabilité, mais dites donc, les premières personnes qui sont en charge des enfants, ce n'est pas les curés. Hein. Les premières personnes qui sont en charge des enfants, ce sont les parents. Et donc, je pense que cette question de saint Thomas, qui paraît comme ça, extérieurement, quelque chose de relativement secondaire, en fait, ne l'est pas. Donc, question 55 maintenant. Donc, saint Thomas va parler des vices opposés à la prudence. Donc, une chose qui ressemble à la prudence. Alors là, il y a des points importants dans cette question. Donc, on arrive à la fin de la vertu de prudence, puisqu'il y a 56, le traité sur la prudence s'arrête à la question 56, donc je vais finir ça aujourd'hui, peut-être même commencer déjà la vertu de justice. Donc saint Thomas commence par se poser la question, question 55, article 1, la prudence de la chair. Bon, qu'est-ce que c'est que la prudence de la chair? La prudence de la chair, saint Thomas dit que c'est une fausse prudence qui conduit les hommes à mettre leur fin dernière dans les biens bien matériels. C'est-à-dire que si, on dit souvent que c'est vrai que si les gens prenaient autant de temps pour s'occuper de leur âme qu'ils s'occupent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. On peut même aller beaucoup plus loin que ça. Si le chrétien moyen passait un dixième du temps qu'il passe sur son corps à s'occuper de son âme, il serait un saint. Et malheureusement, la prudence de la chair fait que, eh bien justement, la vertu de prudence va disparaître, parce que si la négligence se met dans l'âme, eh bien, petit à petit, c'est la prudence qui va disparaître. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les parents, surtout les parents, vont devenir de plus en plus imprudents. Et puis, cette prudence de la chair va faire que, eh bien, les choses secondaires vont prendre la place des choses principales. Comme il n'y a pas de place pour tout le monde, eh bien, dans l'âme, il n'y aura plus que des choses secondaires. Les choses secondaires qui viennent prendre la place des choses importantes. C'est exactement comme ça que travaille la Révolution. Chasser des âmes, et surtout chasser des intelligences, les choses importantes, faire croire aux intelligences que les choses importantes sont les choses secondaires et que les choses secondaires deviennent des choses importantes. Et c'est ça qui est la cause de tout le malheur, surtout en France. Donc la prudence de la chair est-elle un péché? Bien oui, ici de saint Paul, la prudence de la chair est ennemie de Dieu. La chair donc existe pour l'âme, dit le père Le Breton, là que je suis, comme la matière pour la forme et l'instrument pour l'agent, un illicitement aimé qu'autant qu'on la rapporte à l'âme qui est sa fin. Donc on a le devoir d'utiliser les puissances de notre âme, à savoir l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Nous sommes tenus d'utiliser les quatre puissances de notre âme pour atteindre notre fin. Alors, rappelez-vous le début des exercices Saint-Ignace, c'est la phrase de Saint-Ignace, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et il va utiliser les créatures qui sont autour de lui, autant que ces créatures l'aident à atteindre cette fin, à savoir le salut de son âme, et il doit se couper de ces créatures si ces créatures sont pour lui un obstacle. Et ce n'est pas simplement atteindre sa fin personnelle, si une personne a un devoir d'État par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il a charge d'âme, il a aussi le devoir, évidemment, d'aider les gens dont il a la charge, au moins autant que ça dépend de lui, pour amener ces gens vers le bon Dieu. Donc, il ne s'agit pas simplement de se dire « Est-ce que je suis en état de grâce ?» Il faut aussi de se dire « Est-ce que les gens dont j'ai la charge sont en état de grâce ?» Ou est-ce que les gens, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les gens qui sont en état de grâce, qui sont sous ma charge, qui sont à ma charge, pardon, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider ces personnes à vivre en état de grâce? S'il peut vraiment répondre oui, alors à ce moment-là, il est en paix devant Dieu. Alors, il y a des cas, il ne faut pas non plus accuser, donner des accusations qui n'existent pas. Il y a des cas, c'est pour la faute des parents. J'ai vu des parents qui ont fait un travail magnifique, et puis malheureusement, dans la famille, il y a un qui tourne très mal. Il y a une brebis noire qui se promène et puis qui fait du n'importe quoi. Bon, c'est malheureusement un cas fréquent. Bon, si les parents ont vraiment tout fait, alors là, il n'y a pas de faute. Donc, cette fausse prudence, la prudence de la chair, c'est une fausse prudence. Une prudence qui conduit donc les hommes à mettre leur fin dernière dans les biens matériels. On peut traduire différemment en disant la prudence, la fausse prudence, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est un faux raisonnement qui va nous faire croire que les choses que le monde considère comme secondaires sont en fait souvent les choses très importantes pour le bon Dieu. Et donc la fausse prudence, la prudence de la chair, c'est des choses qui vont nous pousser à envahir notre âme avec des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes, c'est-à-dire s'occuper du bon Dieu. Deuxième article de la question 55. La prudence de la chair est-elle toujours un péché mortel ? La prudence de la chair, qui a pour résultat de nous faire mettre notre fin dans les choses sensibles, est notoirement un péché mortel. Encore une fois, pour répondre à cette question, il faut voir les conséquences. C'est-à-dire, est-ce que la prudence de la chair, dans laquelle je tombe de temps en temps, a des conséquences importantes? Si les conséquences ne sont pas importantes, il peut y avoir une prudence de la chair pour des détails, à ce moment-là, il est évident qu'il n'y a pas faute grave. Par contre, si la prudence de la chair concerne des choses importantes, surtout le salut de notre âme, il est évident que dans ce cas-là, la prudence de la chair qui nous fait mépriser le salut de notre âme devient une faute grave. C'est absolument évident. Donc, ce que dit saint Thomas, la prudence de la chair qui a pour résultat de nous faire mettre notre fin dans les choses sensibles est notoirement un péché mortel. Pourquoi ? Parce que la prudence de la chair, d'une certaine façon, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire qu'on commence à adorer, à remplacer un vrai Dieu par un faux Dieu. On met le bon Dieu dehors et on remplace le vrai Dieu par un faux Dieu. Et le corps prend la place de l'âme. Au lieu d'avoir l'âme qui est la forme du corps qui contrôle le corps, c'est le corps qui va être mis d'abord au niveau de l'âme, puis ensuite le corps qui va prendre la place de l'âme. On le voit très bien aujourd'hui, c'est tout l'esprit de la révolution de mai 68, jouir sans entrave, c'était la règle, jouir sans entrave et donc ne plus se préoccuper de son âme. Retomber comme un animal, devenir comme un animal et se préoccuper que des choses secondaires. Alors, ici, une petite note de saint Thomas qui est importante dans l'article 2 de la question 55. Observons, dit-il, que si on rapporte à une fin honnête le soin de son corps, qu'on en prend, par exemple, de la nourriture pour soutenir ses forces, ce n'est pas là ce qu'on nomme prudence de la chair. Le soin donné au corps dans ces conditions est un moyen d'arriver à une fin supérieure. Donc, ce n'est pas un péché de se préoccuper des choses matérielles. Parfois, des gens, si vous voulez, il faut se rappeler que les vertus cardinales, la prudence entre autres, sont des vertus qui se tiennent en équilibre entre deux excès. Il peut y avoir un excès aussi là-dedans. Un excès là-dedans où des gens sont ou ne se préoccupent plus du tout de ce qu'ils mangent. Ils mangent n'importe quoi, ou ils ne mangent plus assez, et puis ils dépérissent parce qu'ils font trop pénitence, par exemple. Ils peuvent pécher contre leur devoir d'État. Ou au contraire, des gens qui vont passer beaucoup trop de temps donner beaucoup trop d'importance à la nourriture et qui, dans ce cas-là, pêchent par excès. J'ai connu un séminariste qui était un très bon séminariste qui a fini dans une maison un hôpital psychiatrique parce qu'il a fait trop pénitence. Et tous ses supérieurs lui ont dit, et il n'a pas tenu compte, et il est mort maintenant, Dieu est son âme, mais il est mort dans une institution parce qu'il avait été très imprudent dans les pénitences qu'il faisait. Voyez. Alors, je pense qu'il faut faire aussi un petit peu attention dans ce domaine-là. C'est un sujet un peu brûlant pour certaines personnes. Par exemple, j'ai remarqué que dans le monde moderne, on a tendance à, bon, qu'on se préoccupe de manger correctement, c'est une bonne chose. Qu'on se préoccupe de manger des choses saines, c'est tout à fait normal. Mais je trouve qu'il y a une tendance générale maintenant, surtout dans le milieu de la tradition, de donner beaucoup trop d'importance parfois à la nourriture. Entre autres, les gens qui pratiquement considèrent tous ceux qui ne mangent pas bio comme des repris de justice, quoi. Et là, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a encore une fois un manque de prudence dans ce domaine. Oui, bon, qu'on cherche à avoir la nourriture biologique, qu'on cherche à avoir des bons produits, qu'on fasse les marchés pour obtenir des bons produits, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si on donne trop d'importance à ces choses qui sont quand même du domaine secondaire, on peut pêcher gravement. Là, on le voit très bien. Avec par exemple, moi j'ai vu ça dans certaines familles où l'esprit nourriture biologique était tellement important que pratiquement les gens refusaient de manger une nourriture qui n'était pas une nourriture qui avait été achetée dans un magasin bio. Alors il arrive des catastrophes, surtout au niveau des vocations. Parce qu'un jeune homme, une jeune fille qui a été élevée comme ça, évidemment, il rentre dans un séminaire, ou elle rentre dans une maison religieuse. Ben, dans un séminaire de maison religieuse, le cuisinier ne peut pas faire un plat différent pour chaque séminariste, chaque religieuse, hein, c'est impossible. C'est des communautés, donc on mange ce qu'on nous donne. C'est bon, tant mieux, c'est pas bon, tant pis. En général, c'est toujours correct. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément toujours la nourriture biologique. On a vu des cas de gens qui avaient tellement donné d'importance à la nourriture biologique que pratiquement, il fallait leur faire des plats privés. Dans une vie de communauté, c'est impossible. Dans une maison religieuse, c'est une cause d'absence de vocation. Imaginez une jeune fille qui rentre dans une vocation, dans une maison religieuse, qui dit ah oui, mais moi, attention, ça, je peux pas manger parce que c'est pas, pour moi, c'est pas bio. Ça, je peux pas manger parce que c'est pas bio. Ça, je peux pas manger parce que ça, c'est cuit dans des assiettes, des poêles faites en aluminium et que l'aluminium, ça donne le cancer. Ça, c'est pas bon parce que c'est du pain blanc et le pain blanc, ça donne le cancer. Ça, c'est pas bon parce que c'est du sucre, il faut manger du miel à la place du sucre. Et ça rend fou les supérieurs. J'ai eu des cas comme ça. Moi, j'ai eu des cas comme ça quand j'étais supérieur de maison de retraite, entre autres à Richfield, dans le Connecticut, américain. On avait parfois des Canadiens qui étaient comme ça, pas tous, mais certains qui étaient terribles, qui venaient comme ça, parfois 10, 15, 20, 20 Canadiens à une retraite de 40, qui rendaient notre cuisinier complètement fou. Parce qu'ils venaient avec leur nourriture, littéralement. Parce qu'ils ne faisaient pas confiance en la nourriture qu'on leur devait. Ils venaient avec leurs propres fruits, par exemple. Parce qu'ils considéraient que nos fruits, les fruits qu'on donnait, c'était des fruits qui avaient eu un traitement avec des produits chimiques et donc il ne fallait pas manger ça. Ils venaient avec leur propre pain. Pratiquement, ils faisaient leur cuisine dans leur cuisine à part. C'était impossible. Moi, je leur ai dit à la fin, j'en ai assez. J'aurais dit, écoutez, je serais vous, j'arrêterais de manger complètement parce que c'est très dangereux. En plus de ça, vous savez, quand vous buvez de l'eau ici, c'est des canalisations de cuivre qui amènent l'eau au robinet. Quand une canalisation de cuivre, comme ça, cancer, ça donne le cancer. Et donc, il ne faut plus boire. Et on a fini par lui mettre des points sur les i, pratiquement empêcher certaines personnes de faire la traite, parce que c'est impossible. Mais quand un excès, encore une fois, on voit très bien que comme dans toutes les vertus cardinales, ce n'est pas les vertus théologales dont on parle, ces vertus cardinales, elles doivent être équilibrées. Il y a un excès des deux côtés, on peut avoir trop peu ou trop. Donc faire attention. Puis il y a une deuxième chose qui m'a toujours énormément gêné dans cette histoire-là, je ne vais pas trop en parler maintenant, ce n'est pas le sujet, mais... C'est le lien qui existe. Encore une fois, je ne dis pas que rechercher la nourriture biologique est mauvais. Je dis qu'il y a un lien, ça nous plaise ou non, il faut bien reconnaître, il y a un lien qui existe entre le nouvel âge et la nourriture biologique. Et ça, c'est inquiétant. Moi, c'est une chose qui m'a frappé, c'est dans tous les pratiquement tous les magasins bio, ils vendent des livres du nouvel âge. Pourquoi? Quel lien entre les deux? Et en fait, quand on analyse le nouvel âge, donc le nouvel âge qui a été fondé autour des années 60 en Écosse, au départ, c'était des jeunes, si vous voyez, qui avaient déjà un peu l'esprit de 68 et qui voulaient des légumes bio, très bien, je ne suis pas contre. Mais ça finit par devenir une religion. Et là, on est arrivé aux inepties actuelles du nouvel âge qui considèrent que pratiquement cueillir une fleur dans un parc national, c'est un péché grave, mais par contre tuer son gamin par avortement, il n'y a plus de problème. Et là, il y a vraiment un problème. Et c'est cette espèce d'esprit matérialiste qui fait, par exemple, considérer la terre comme la déesse mère, la Gaïa, de la déesse mère, et puis on oublie complètement le bon Dieu là-dedans. Et donc, encore une fois, il faut, à mon avis, faire attention, et ça, c'est une prudence de la chair qui peut être catastrophique au niveau des âmes. Vous voyez, donc, encore une fois, il faut équilibrer. Je n'ai pas l'intention de dire que c'est un péché de manger bio. Au contraire, c'est une bonne chose de manger bio. Mais il faut avoir un équilibre. Et comprendre aussi les conséquences de nos actions. Vous voyez, par exemple, je pense il me semble que c'est une règle de prudence que des parents puissent dire dans notre famille on mange bio parce que c'est la pratique de la famille, très bien. Mais il faut aussi que les parents éduquent leurs enfants en disant quand vous êtes invité chez des gens, vous mangez ce qu'on vous donne. D'accord ? C'est bon, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Vous n'allez pas faire toute une comédie pour vérifier d'abord la provenance des aliments. On mange ce qui nous est donné. C'est une question de politesse élémentaire et de charité. Et c'est très important, surtout pour les entrées en vie religieuse. Sinon, on perd des vocations dans certaines communautés religieuses à cause de ça. Comme quoi, le démon sert de tout. Et avouez que si le démon arrive à détruire une vocation pour une histoire de pommes de terre bio, c'est quand même un peu triste. Et donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Deuxième exemple qu'il donne, donc c'est l'article 3 de la question 55, l'astuce. L'astuce est-elle un péché spécial ? Donc un péché, on pêche contre la prudence, soit que l'on veuille atteindre une fin qui a l'apparence de la bonté, sans en avoir la réalité, ce qui est la prudence de la chair, soit que l'on poursuive une fin bonne ou mauvaise par des chemins détournés et trompeurs au lieu de marcher par la voie droite. Donc là, il parle, oui, il fait Saint Thomas, article 3 de la question 55, fait une allusion déjà aux tentations sous apparence de bien. Oui. Et je pense que l'exemple ce dont on vient de parler, la nourriture biologique, c'est une tentation sous apparence de bien. Il faut équilibrer ça par la prudence. Oui. Et là, c'est pareil. Oui, donc il peut y avoir l'homme astucieux se voile le cœur par la fourberie, dissimule sa pensée par le mensonge, montre comme vrai ce qui est faux et comme faux ce qui est vrai. Il est évident quand l'astuce est poussée à ce degré-là, c'est une faute grave. C'est du bon sens. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que l'astuce est toujours systématiquement un péché grave. Bon, il y a une astuce qui est bonne. La débrouillardise, ce qu'on appelle en français la débrouillardise, c'est une certaine forme d'astuce qui est tout à fait correcte. Hein. Débrouillardise, c'est une astuce pour arranger un petit peu sa vie dans les choses de tous les jours, c'est une très bonne chose. Oui. Mais il y a une astuce qui est dangereuse. Une astuce qui est très, très, très dangereuse. Et ça, c'est la porte ouverte, d'ailleurs ici il en parle, c'est la porte ouverte, pardon, ici il en parle, c'est la porte ouverte surtout au mensonge et puis au vol. Au vol, j'avais un ami, un de mes paroissiens quand j'étais. Amiens, mes paroissiens qui s'occupaient d'un supermarché, ils me disaient, mais c'est affolant, les vols font perdre des sommes considérables dans un gros supermarché, et les vols ne viennent pas de l'extérieur, viennent des gens de l'intérieur. Des astuces, des petits trucs comme ça pour, par exemple, prendre une étiquette d'un produit, les mettre sur un autre produit qui est plus cher, pour faire passer le produit qui est moins cher à la caisse et demander à ses copains de venir s'occuper de ça. Il y a des astuces comme ça. Et parfois, il y a des gens qui sont contents. Ben oui, j'ai réussi à avoir cet appareil qui vaut 200 euros. Je l'ai eu pour 5 ans parce que j'ai changé l'étiquette. Et puis quand on dit aux gens, maintenant, mais c'est du vol, ça. C'est du vol plusieurs... Ah non, c'est de l'astuce. C'est pas l'astuce, c'est du vol. C'est aussi d'astuce, mais c'est l'astuce pécamineuse, et une astuce de ce genre, c'est une astuce qui mène au vol. Voyez, et c'est quelque chose de très très fréquent. Je me rappelle, même quand j'étais en école, quand j'étais professeur en école, les difficultés qu'on avait avec des enfants, des jeunes adolescents qui, par exemple, fraudaient avec les billets de train. Et on a eu certaines difficultés avec même un confrère qui disait aux enfants que c'était pas un péché. Alors il disait aux enfants, c'est pas un péché de frauder avec un billet de train ou de passer par-dessus le portique pour prendre le métro à Paris parce que le gouvernement nous vole. Non mais attendez, fichez-moi quoi. Et j'avais des gamins de 15 ans qui me disaient, le prêtre, le curé nous a dit que c'était pas du vol parce que le gouvernement nous vole. Le gouvernement vole vos parents peut-être, mais certainement pas vous. À 15 ans, ne pas me faire croire que c'est le gouvernement qui vous vole. Et donc, passer le portillon du métro en sautant par-dessus le portique, c'est du vol. Bon, c'est pas un vol en matière grave, puisque je ne sais pas combien vaut un billet de métro, mais à 1 euro, c'est une matière légère. Mais si le gars fait ça deux fois par jour, 365 fois par an, on finit par arriver à des sommes considérables. Et là, il y a faute grave. Vous voyez. Il y a faute grave contre la justice. On a eu par exemple des mêmes problèmes avec des enfants qui prenaient le train sans payer leur billet de train. D'ailleurs, en général, d'ailleurs, les dos des parents, parce que comme ça, ils gardaient l'argent que les parents leur donnaient pour le train. Et ils se cachaient dans les toilettes, ils se cachaient sous les sièges pour éviter le contrôleur. Et des enfants qui étaient dans les écoles catholiques provenant de milieux catholiques. Alors là, c'est un exemple typique de l'astuce qui peut devenir un péché spécial et même un péché mortel dans certains cas. Hein. Donc je pense qu'il faut faire très attention au niveau de l'éducation dans les familles parce que le vol comme ça est devenu extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent. Les gens sont habitués, si vous voulez, à voler pour sans une raison proportionnée. Bon. Qu'il y ait dans certains cas des raisons graves de faire ce qu'on appelle une compensation occulte, c'est autre chose. Bon, il y a des cas, on verra ça avec les vertus de justice, il y a des cas où on a le droit de faire une compensation occulte. Bon, pour rattraper une injustice qui a été faite par votre patron, par exemple, ou par votre supérieur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc là, il faut faire quand même sérieusement attention. Je pense qu'il y a une carence éducative qui entraîne des catastrophes au niveau des âmes, parce que les enfants s'habituent aussi au mensonge, par exemple. Vous voyez, ils voient leurs parents mentir, mais même des petites choses, les enfants ne se rendent pas compte. Je me rappelle un exemple d'un enfant qui était assez jeune, qui avait 8-9 ans. Vous voyez, donc le téléphone sonne. Donc maman dit réponds au téléphone pour moi. Donc l'enfant répond. Et puis je veux parler à madame Intel. Et l'enfant va dire à sa mère. Je ne veux pas parler de cette femme, dit que je ne suis pas là. Donc l'enfant revient au téléphone, dit maman n'est pas là. Mais bien sûr, ce n'est pas une matière grave, ce n'est pas faute grave, mais dans le cœur de l'enfant, on prépare déjà l'enfant à s'habituer à mentir. Et après, les mensonges comme ça se répètent, et ça finit par faire des choses graves. Ça veut dire par faire ce qu'on appelle une matière grave. Et il peut y avoir des cas où, à force de multiplier les petits mensonges comme ça, on finit par habituer les gens à mentir pour tout. On avait des problèmes, des gros problèmes de mensonges dans les écoles, parce que les enfants sont habitués à mentir à la maison. C'est des petites choses. Et donc, cette astuce n'est pas bonne. Et alors, article 4 de la question 55. Le dol revient-il au péché de l'astuce? Le dol, c'est un mot qui n'est pratiquement plus utilisé en français actuellement. C'est du vieux français, en fait. Il y a des mots comme ça qui ont complètement disparu du français courant. Le dol, c'est la tromperie. Donc c'est pareil. Hein. Donc c'est une certaine forme d'astuce. Il en diffère comme l'acte diffère de la pensée dans la réalisation extérieure. Donc il faut encore une fois, pour juger la gravité de l'astuce, la gravité de la tromperie, voir les conséquences. Est-ce que les conséquences sont graves? Vous voyez? Alors, encore une fois, il faut faire attention, expliquer surtout aux adolescents qu'un vol d'un euro tous les jours de l'année, eh bien, ça fait 365 euros à la fin d'année. Donc, il faut additionner ces petits vols. Alors, un vol d'un euro, ce n'est pas un péché grave. Un vol de 365 euros, c'est une faute grave. Parce que là, il y a matière grave au niveau de la quantité d'argent volé. Et le problème, c'est qu'on finit par habituer certaines personnes à systématiquement mentir en disant « Oh, c'est... » Des petites choses. Les anciens, par exemple, les pères, étaient draconiens sur le mensonge. Vous voyez donc, encore une fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous n'êtes pas obligé d'aller dévoiler des choses, de répondre à certaines questions qui sont des questions impudentes ou des questions par des personnes qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Ce n'est pas un péché de ne pas répondre à ces questions. Bon, il y a des. Personne qui vous embête, bon, il y a certaines expressions françaises, par exemple, qui sont plus considérées comme des mensonges. Quand la bonne dit « Madame n'est pas là », bon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire « Madame n'est pas là pour vous recevoir parce qu'il y a autre chose à faire », mais c'est tout. Hein. Donc, il faut faire un petit peu attention, surtout au niveau de l'éducation des enfants et surtout au niveau des plus petits, parce que les enfants qui voient leur père mentir pour des choses comme ça... Moi, j'ai eu un cas une fois, j'étais à mourir de rire, mais le père voulait faire une grande leçon de catéchisme à ses enfants sur le mensonge. Il disait qu'il ne fallait pas mentir. Et puis, ils arrivent à un péage. Il y avait un péage à payer pour un entrée dans un je ne sais plus quoi. Donc, le père a fait une sorte de catéchisme sur le mensonge. Et il arrive avec ses enfants, sa femme et ses enfants. Un endroit, il fallait payer pour entrer dans un château, je ne sais plus quoi. Et il y avait gratuit pour les enfants qui avaient moins de 8 ans. Alors, le gars au guichet demande, votre petit, il a moins de 8 ans? Oui, il a moins de 8 ans. Le petit gars, c'est pas vrai, j'ai 9 ans. Eh bien, le papa ne s'est pas rendu compte, il a scandalisé son gamin. Parce que comment veut que le gamin comprenne quelque chose après? Mais c'est pas des matières graves, c'est pas des choses très graves. Mais si on n'habitue pas les enfants à obéir, à dire la vérité dans les petites choses, ils finiront par s'habituer et finalement à boire l'iniquité comme l'eau. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Donc, on dit que le dol est dans l'acte et la tromperie dans la pensée. Bon, mais on peut aujourd'hui remplacer le mot dol par tromperie. Ensuite, la fraude. On vient déjà d'en parler pas mal. L'article 5 de la question 55. Donc, la fraude appartient-elle à l'astuce? La fraude, donc, revient pareillement à l'astuce. Donc, en fait, très, très souvent, la fraude, c'est tout simplement, purement simplement, du vol. Du vol. Donc, attention à ces choses-là. Bon, ça... Il ne faut pas non plus tomber dans le scrupule, c'est absolument évident. J'ai eu des cas de parents qui, à mon avis, allaient trop loin dans l'autre sens, et par exemple, disaient, vous avez recevé une lettre, le thème n'a pas été oblitéré, vous n'avez pas le droit de le réutiliser parce que c'est du vol. Non, ce n'est pas du vol. Le thème n'a pas été oblitéré, la machine n'a pas fonctionné avec votre lettre, vous avez le droit de réutiliser le thème, le coller sur une autre enveloppe et le réutiliser, ce n'est pas du vol. D'accord ? Alors, article 6, là il y a des distinctions importantes à faire. La sollicitude à l'égard des biens temporels est-elle permise? Bon, encore une fois, il faut équilibrer les choses. Trop de sollicitude à l'égard des biens temporels est peut-être pécamineux, peut devenir quelque chose de pécamineux, mais par contre, une absence de sollicitude à l'égard des biens temporels dont vous avez la charge peut aussi devenir pécamineux. Vous voyez? Moi, je me rappelle une fois, Mgr Lefebvre, la dernière fois, j'ai vu quand même Mgr Lefebvre vraiment, pas en colère, mais un peu s'énerver. Je me rappelle une conférence spirituelle qu'il nous donnait. Il a vraiment monté le ton, il n'était pas content du tout parce qu'il a dit, nous avons plusieurs voitures de communauté, on avait plusieurs voitures qu'on utilisait pour les courses, pour aussi les sorties quand les séminaristes devaient sortir le mercredi après-midi ou les jours où on avait le droit de sortir. Bon, on prenait souvent des véhicules de communauté avec permission, etc. Et Mgr Lefebvre nous a dit, il y a une des voitures de communauté qui est complètement fichue, il faut changer le moteur parce que personne ne s'est occupé. Il y avait un voyant d'huile qui s'est allumé, personne ne s'en est occupé, l'huile n'a pas été mise dans le carter et du coup, ben, on a grillé le moteur. Bon. Et il a répondu, on pêche gravement contre la pauvreté, l'esprit de pauvreté en agissant ainsi, on vit avec les dons des donateurs, il faut quand même faire un peu attention. Donc il y a une certaine sollicitude des biens temporels qui est normale. Il ne faut pas utiliser même les textes qu'on trouve dans les évangiles, les comprendre de travers. Par exemple, on trouve dans l'évangile, les textes ne dites pas avec sollicitude que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous. Donc, on pourrait dire, ces paroles montrent que la sollicitude pour les choses temporelles est mauvaise. Bon, mais il faut distinguer les choses. Encore une fois, il ne faut pas... Bon, ça serait une erreur pour un père de famille de dire « Moi, je ne fais rien, puis Dieu pourvoira. » On entend souvent cet argument-là, « Dieu pourvoira. » Il faut commencer par faire son devoir d'État, et puis une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de couvrir les fins de mois, bon, après, on peut prier Saint-Joseph pour qu'il aide à trouver les moyens financiers de payer les factures. Mais il faut quand même faire un petit peu attention. S'il n'y a pas un minimum de prudence qui est pratiqué justement pour éviter les gaspillages, pour trouver un moyen de payer les factures, bon, ben, Saint-Joseph va faire des miracles à chaque fois. Donc il y a un excès de sollicitude pour les biens temporels est mauvais, mais une sollicitude moyenne et raisonnable pour les biens temporels est quelque chose de permis. Donc on voit un petit peu les distinctions avec saint Thomas. Donc ces paroles montrent que... à propos de la sollicitude, donc, il va faire les distinctions. Cette sollicitude est mauvaise de trois manières. D'abord, premièrement, lorsqu'on fait sa fin derrière les biens terrestres. On se préoccupe tellement des choses matérielles qu'on en oublie les choses éternelles. Bon, c'est évident que là, il y a faute grave. On remplace le bon Dieu par la nourriture, par exemple. Bon. Deuxièmement, lorsque par l'effet de soins excessifs que l'on met à les acquérir, on oublie les biens spirituels. Bon, encore une fois, là, il faut faire un petit peu attention, équilibrer les choses. Il ne faut pas s'occuper que des biens spirituels, mais les biens temporels, on doit aussi s'en occuper, mais il faut une hiérarchie des valeurs. Les biens spirituels sont plus importants que les biens temporels. D'accord ? Donc, il cite ici saint Matthieu, la sollicitude du siècle étouffe la parole de Dieu. Enfin, troisième cas, il y a une sollicitude pécamineuse lorsqu'on a une crainte exagérée de manquer du nécessaire. Donc, trois choses. Lorsqu'on fait sa fin dernière des biens terrestres. Deuxième chose, quand on oublie les biens spirituels. Troisième chose, quand la sollicitude du siècle étouffe la parole de Dieu. Et donc, une espèce de crainte exagérée de manquer du nécessaire. Bon. Quand on se préoccupe du nécessaire, c'est normal. Hein, mais il ne faut pas non plus voir que ça. Donc on voit très bien que dans tous ces domaines-là, il faut un équilibre. Cet équilibre est donné justement par la vertu de prudence. D'accord ? Donc cherchons d'abord avant tout les biens spirituels et soyons assurés qu'en accomplissant nos devoirs, nous ne manquons pas des biens absolument nécessaires. Bon, encore une fois, ceci n'empêche pas de pratiquer cette vertu de prudence. Donc, nous pouvons user des biens temporels, ça c'est une note du père Breton, nous pouvons user des biens temporels pour les nécessités de nos corps, mais nous ne devons pas y mettre notre faim ni nous en préoccuper à l'excès. La sollicitude de celui qui gagne son pain par un travail corporel sans livrer son esprit à des inquiétudes vaines n'a rien d'excessif. Il faut travailler, dit saint Jérôme, mais bannir les inquiétudes. Et on fait tout ce qu'on peut, et puis après, bon, ben, on reste entre les mains de saint Joseph. Hein. Bon, les anciens prêtres étaient comme ça. Et quand ils avaient des grosses factures à payer pour leurs œuvres, ben, ils faisaient d'abord le tour des bienfaiteurs, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour diminuer les frais, pour essayer de payer les factures. Bon, puis quand c'est arrivé, moi je connais un vieux prêtre qui était un très simple prêtre, Père Rivière était comme ça, et quand il avait des grosses factures à payer, qu'il s'était démené pour essayer de trouver l'argent et tout, il avait tout fait, il s'asseyait près du téléphone, et il disait maintenant, c'est plus mon problème, ça Joseph, j'attends le coup de téléphone. Et le téléphone sonnait, hein. Les téléphones sonnaient et les choses arrivaient, vous voyez. Pas forcément comme on voulait, quand on voulait, mais ça arrivait, d'accord. Alors, article 7, variante de la même question que l'article 6, dans l'article 7 de la question 55, doit-on se préoccuper de l'avenir? Alors, encore une fois, il y a les textes de saint Matthieu, ne vous livrez point des inquiétudes pour le lendemain, bon, donc pour l'avenir. Encore une fois, il faut équilibrer ces textes. Il ne faut pas prendre ces textes au pied de la lettre et oublier le bon sens. Le bon sens, ça existe. Non. Trop se préoccuper de l'avenir, c'est une imprudence. Et pas assez s'en préoccuper, c'est aussi une influence. Imprudence, encore une fois, il faut équilibrer les choses. Bon. L'une des conditions, dit saint Thomas, c'est la convenance du temps. Hein. Ne vous livrez point à des inquiétudes pour le lendemain. Le lendemain se mettra en peine par lui-même. Chaque jour suffit sa peine. D'accord ? Mais, encore une fois, il faut éviter de tomber ou dans un excès ou dans l'autre. Bon, soit de ne pas se préoccuper du tout des choses matérielles et on laisse les choses s'abîmer et du coup, ben, on manque du nécessaire. Ou au contraire, trop se préoccuper, trop s'inquiéter des choses temporelles et du coup, on n'a plus le temps pour la vie spirituelle parce que notre esprit est toujours dans l'inquiétude des choses matérielles. D'accord ? Alors, une prévoyance convenable à l'égard des choses futures rentre dans la vertu de prudence. C'est une note du père de Breton. Ce serait une prévoyance désordonnée que de ne s'occuper que des biens matériels, en recherchant des choses superflues et inutiles dans la vie présente ou en anticipant sur la sollicitude d'un autre temps. Alors, j'ai déjà cité souvent, je crois, l'exemple dans la vie de saint François, qui avait reçu une fois dans un couvent beaucoup de vivres, beaucoup de dons. De don nature, ils étaient bien contents parce qu'ils en avaient suffisamment pour le lendemain. Et saint François l'a su, l'a appris et a exigé que le surplus soit donné aux pauvres. La personne qui était en charge des celliers a dit « Mais on garde pour demain pour pouvoir nourrir la communauté demain. » Chaque jour, ça fait sa peine. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, on a eu assez. Remercions mon Dieu de ce qu'on a eu. Et puis, donnons ça aux pauvres. Il a exigé que le surplus soit donné aux pauvres. Bon, ça, c'est valable pour des religieux qui ont fait vivre de pauvreté. Bon, c'est pas forcément à mettre en pratique de la même façon dans une famille, c'est évident. D'accord ? Le Seigneur ne désapprouve donc pas la prévoyance naturelle. Ce qu'il condamne, c'est l'abandon du service de Dieu pour les biens matériels. C'est-à-dire que quand les choses matérielles prennent la place du spirituel. Hein. Mais encore une fois, là, il faut une certaine, je pense qu'il faut un certain équilibre. On trouve aussi, j'ai déjà parlé du déséquilibre en matière de nourriture biologique chez certains fidèles, on trouve parfois aussi un certain déséquilibre en matière médicale. On a des fidèles, pas trop en France, mais quand j'étais aux États-Unis, c'était terrible. Il y avait des fidèles qui refusaient catégoriquement, par principe, d'aller voir un médecin. Bon, pour eux, c'était pratiquement pécamineux d'aller voir un médecin, pas besoin de médecin, uniquement la nourriture naturelle, la médecine naturelle. Et je me rappelle un cas très précis, au nord des États-Unis, où une famille comme ça était comme ça, donc le père voulait absolument jamais voir un médecin. Ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, parce qu'il considérait tous les médecins des bandits. Et sa femme a eu un enfant à la maison, et il y a eu un problème au niveau de la naissance de l'enfant. Et donc la maman était en train de mourir à la maison, et l'enfant aussi. Et le père, rien faire, non, il faut faire confiance au bon Dieu. Heureusement qu'il y avait une amie de la femme qui était en train d'accoucher, essayer d'accoucher à la maison, qui s'est rendu compte, qui était une femme assez corpulente, le mari c'était un petit bonhomme, donc elle a littéralement poussé, envoyé balader le mari, elle a pris la femme qui n'arrivait pas à accoucher, l'a mis dans sa voiture, l'a conduit à l'hôpital, et ils ont sauvé l'enfant et la mère in extremis. Mais le père avait continué dans son refus d'aller chercher un médecin, il perdait sa femme et son enfant. Et ça c'était des choses assez fréquentes qu'on rencontrait, vous voyez, ou des gens qui, par exemple, sont tellement opposés à certains médicaments, par exemple les vaccins, que même dans certains cas où vraiment ils sont nécessaires, eh bien, ils refuseront de les utiliser. Bon, moi, je suis absolument opposé à la multiplication des vaccins quand ce n'est pas nécessaire, surtout des vaccins qui contiennent du mercure et de l'aluminium, qui peuvent être extrêmement cancérigènes, c'est évident. Maintenant, cependant, dans certains cas, il y a certaines précautions à prendre. Moi, je me rappelle quand je suis allé prêcher les exercices au Gabon, l'abbé Roche qui m'avait invité, il m'a envoyé une lettre en me disant ce que je devais faire avant pour ne pas attraper le paludisme et la fièvre jaune quand j'arrive au Gabon. Bon, j'ai dû prendre de la... Parce que c'était de la... Pas de la codéine, c'est de la... La quinine. La quinine, voilà, la quinine avant, pendant je ne sais plus combien, un mois avant, puis deux mois après pour éviter le problème. Et imaginez quelqu'un qui aurait refusé de faire ça. Moi, j'ai eu un prêtre qui était avec moi pour m'aider pendant la retraite, mais il a eu... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas pris ses médicaments, j'en sais rien, mais en tout cas, il m'a fait une crise de paludisme aigu en plein milieu de la retraite. J'ai dû vite faire appeler l'abbé Groche pour qu'il vienne me chercher, il l'emmène à l'hôpital, hein. Sinon il passait de l'autre côté. Encore une fois, il faut de l'équilibre. Voyez. Donc, en matière alimentaire et aussi en matière de médicaments. Voyez. Il faut... Entièrement d'accord, cette multiplication de vaccins que c'est pas nécessaire est absolument ahurissante, il ne faut pas tomber dans le panneau. Je suis d'accord qu'il faut faire attention à ne pas manger la nourriture frelatée, mais encore une fois, il faut la vertu de prudence. Dans certains cas, il faut habituer nos enfants à manger tout, à manger ce qu'il leur est donné, sans faire de remarques. Et pareil, d'accepter certains médicaments dans des cas qui sont nécessaires. Quoi. Bon, encore une fois, il y a des fois où c'est pas très évident de trouver une solution. Mais bon, il y a certainement des multiplications, par exemple le traitement des cancers, la multiplication de la chimiothérapie. Moi, ils ont pratiquement tué mon père par les chimiothérapies. Hein. Bon, eh bien, la multiplication de la chimiothérapie dans des cas de cancer n'est pas toujours nécessaire. Dans bien des cas, elle fait plus de mal que de bien. D'accord ? Vous voyez, donc, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Article 8 de la question 55. On va terminer la vertu de prudence. Tous les vices dont nous parlons naissent-ils de l'avarice ? Eh bien, Saint Grégoire va dire, donc la fraude est fille de l'avarice. Bon, c'est l'avarice au sens large. Hein, c'est pas l'avarice tel qu'on entend dans le vocabulaire français. Si la prudence de la chair, dit saint Thomas, l'astuce, la fraude ont quelques similitudes avec la prudence, elles le doivent à l'intervention de la raison dont elles abusent. Or, parmi les autres vertus morales, la justice manifeste surtout la droite raison. Par contre, l'abus de la raison apparaît principalement dans les injustices que fait commettre l'avarice. Donc, c'est-à-dire, quand la raison va contrôler toutes ces choses-là, à ce moment-là, les choses sont ordonnées. Lorsque la raison n'intervient plus pour contrôler ces choses-là, c'est à ce moment-là que les choses déraisonnables vont commencer à rentrer dans les habitudes. D'accord ? Alors, question 56. On va terminer la vertu de prudence aujourd'hui. Question 56. Des préceptes de la prudence. Donc, le décalogue, premier article, question très courte, il n'y a que deux articles dans cette question 56. Le décalogue devait-il prescrire la prudence ? On ne voit, dit saint Thomas, dans le décalogue, aucun commandement à l'égard de la prudence. Pourquoi ? Parce que c'est une vertu qui doit être appliquée, pas plus que, autant que, pas plus que, selon les circonstances. Donc, dès lors, la prudence qui a seulement pour objet les moyens d'arriver à nos fins ne devait pas figurer dans le décalogue. Dans le décalogue, il y a les règles générales. Après, pour l'application particulière des règles générales dans les cas particuliers, c'est là où intervient la vertu de prudence. Bien que tous les préceptes qui y sont contenus aient des rapports avec la prudence en tant qu'elle dirige tous les actes vertueux. N'oublions pas que le cocher des vertus, c'est l'expression de saint Thomas, le cocher des vertus, c'est la vertu de prudence. De même que la charité doit diriger la foi et l'espérance, de la même façon, la vertu de prudence doit diriger l'usage des vertus cardinales. Donc, prudence, justice, force et tempérance. Donc, la prudence va intervenir, surtout pour s'appliquer aux moyens d'arriver à une fin. Il y a plusieurs routes pour aller atteindre la fin pour laquelle on est créé. Il y a plusieurs moyens. Il est évident que la prudence doit intervenir pour nous aider à bien juger selon les circonstances. Deuxième article. Devait-il y avoir dans la loi ancienne des préceptes prohibitifs touchant les vices opposés à la prudence ? Alors, saint Thomas va répondre en disant que l'astuce est un vice qui, quant à l'exécution matérielle, s'exerce surtout contre la justice. D'accord ? Donc, on voit très bien comment cette petite vertu qui est un peu oubliée aujourd'hui, qu'on appelle donc la vertu de prudence, la droite raison dans l'agir, recta ratio agibilium, donc la droite raison dans l'agir, est très importante pour nous aider justement à tenir le coup dans le monde moderne. Et il faut un équilibre, il faut bien avouer ce qui est, parfois dans certains milieux de la tradition, il y a un certain déséquilibre parce que les gens manquent de prudence. Il y a certains déséquilibres ou dans l'excès, par exemple. Je vous donne un exemple. J'ai vu dans plusieurs familles, j'ai connu des familles comme ça, qui étaient une sainte famille, mais qui manquaient de bon sens. Par exemple, sous prétexte que dans les villes modernes, les filles s'habillaient comme les prostituées, littéralement tout le temps, donc les mamans, certaines mamans réagissaient, ce qui est normal de réagir, mais réagissaient de l'autre côté de façon aussi imprudente. Par exemple, en obligeant parfois des enfants de 5-6 ans à jouer avec une robe longue qui traînait par terre, quoi. Et du coup, l'enfant il tombait tout le temps parce que la robe était trop longue. Encore une fois, il faut du bon sens. Il faut appliquer les règles générales aux conditions particulières dans lesquelles on est. Bon. Et il y avait une certaine ostentation, par exemple, dans certains cas, je pense qu'il y a d'orgueil qui s'en mêlait, certaines ostentations où c'était presque un concours qui aura la robe la plus longue. Alors, c'est juste s'il n'y a pas une traîne derrière, parce que les personnes voulaient réagir contre le laisser-aller vestimentaire. Réagir contre le laisser-aller vestimentaire, très bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tomber avec l'inverse. Et je dis aux jeunes filles, mais et par exemple, une jolie robe, soyez élégante, une certaine élégance, même pour les tâches ménagères, une certaine féminité qui est normale, n'est pas l'âge de la femme. Et par exemple, une jupe qui couvre largement les genoux en position assise, une jupe, ce qu'on appelle au-dessus de 20 cm, par exemple, au-dessus des chaussures. Bon, ça peut être suffisant dans certains cas. Bon, encore une fois, il faut du bon sens, et si ce bon sens n'est pas donné par les parents, les enfants ne vont pas l'avoir. Et des parents et des enfants qui n'ont pas de bon sens quand ils sont organisés, qui n'ont pas appris le bon sens des parents, ça fait une catastrophe au niveau des familles après. Mais c'est souvent des familles dans lesquelles il y a de gros problèmes après dans les familles, parce que les parents ont manqué de bon sens, n'ont pas appris le bon sens dans la famille. Donc il faut quoi faire un petit peu attention à ces choses-là. Donc on a terminé avec la vertu de justice. Donc c'était des questions 57 à 122. Donc, pardon, je me trompe, on a fini avec la vertu, non pas de justice, on a fini avec la vertu de prudence. Donc, question de prudence, donc la prudence des questions 47 à 56 de la seconda secondée, donc la prudence, ça s'est terminé. Et on va attaquer maintenant donc les autres vertus cardinales, la justice, la force et la tempérance. La justice, c'est 57 à 122, je vais passer assez vite là-dessus, je vais donner simplement les grands principes. La force, c'est question 123 à 140, et la tempérance, des questions 141 à 170. Et après, on attaquera la tertia pars, avec le traité magnifique sur le verbe incarné. Alors, on commencera tout ça, donc la prochaine fois, si Dieu veut, on commencera le traité sur la vertu de justice. On va terminer par une petite prière. Je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pour vos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.